C'est bon.
Bon, ben moi je vais vous présenter un livre de Paul Audi qui s'appelle L'analyse du sentiment intérieur. Alors Paul Audi, il est né en 63, agrégé en 87, fait une thèse de doctorat en 93 sur Rousseau. Et puis ensuite, il écrit à peu près une trentaine d'ouvrages, sa spécialité étant l'éthique et l'esthétique. Alors j'avais lu dans un premier temps un livre qui s'appelle « Supériorité de l'éthique » parce que ça m'intéressait le problème de l'éthique. Et puis dans l'esprit de présenter un livre ici, j'avais choisi « Au sortir de l'enfance ». Et finalement, j'ai renoncé à prendre celui-là parce que il faisait référence plutôt à celui-ci qui sont sortis en même temps. Donc en 2017, je crois. En 2017, voilà. Cet ouvrage s'inscrit dans une recherche globale. Et cette recherche se présente comme un triptyque dans lequel il y a un ouvrage qui s'appelle « L'affaire Nietzsche ». Le deuxième ouvrage, c'est celui-ci, « L'analyse du sentiment intérieur ». Mais chaque ouvrage est autonome, bien sûr. Et le troisième ouvrage, « Supériorité de l'éthique ». Alors, les références de l'auteur, c'est la référence à Nietzsche, qui est omniprésente, la référence à Rousseau, une référence aussi qui est importante, Michel Henry, alors jusqu'au point de faire toute une mémoriane de Michel Henry qui est décédé en 2002, et puis des références classiques comme Montaigne, Pascal, Descartes, Kafka, et une référence plus spécifique qui est de Samuel Beckett. Alors Samuel Beckett, j'ai essayé de lire le livre, mais jusqu'à la fin, je n'ai pas pu savoir de quoi ça parlait. Ça s'appelle Cap au pire. Je ne sais pas si certains ont déjà vu ça. Alors, donc, j'en viens donc à l'analyse du sentiment intérieur. Une très longue introduction. Parce que Paul Audi s'inscrit dans une démarche philosophique qui est dominé par la référence à Nietzsche, lequel Nietzsche semble peser sur l'ensemble de l'histoire de la philosophie contemporaine. Nietzsche disait « mettre sa passion dans les choses où personne ne la met aujourd'hui ». Ce qui fait qu'on a un paysage philosophique disséminé en forme d'archipel, avec des Robinson qui pratiquent une recherche du singulier et une philosophie de l'exception. Ça, c'est ça, un petit peu la façon dont il interprète la philosophie contemporaine. Cette philosophie contemporaine renvoie à la butée sur soi et à l'impossibilité de se détacher de soi-même et de desserrer l'étau ontologique qui nous enferme en nous-mêmes dans une expérience et une épreuve de soi. Alors, dans le sillage de Nietzsche, la pensée philosophique contemporaine s'affiche comme modalité d'expression de la personnalité à travers une pluralité de processus de rationalisation qui suivent des cheminements divers. Alors, à ce titre, il cite Deleuze. Je voudrais juste vous lire un petit passage pour caractériser cette philosophie. Il n'y a pas de raison pure ou de rationalité par excellence. Il y a des processus de rationalisation hétérogènes, très différents suivant les domaines, les époques, les groupes, les personnes, des processus qui ne cessent d'ailleurs d'avorter, de glisser, d'aller dans des impasses, mais aussi de reprendre ailleurs avec de nouvelles mesures, de nouveaux rythmes, de nouvelles allures. Alors, ajoutons encore une dernière chose pour caractériser cette philosophie contemporaine. C'est une pensée qui se présente comme un acte de résistance, c'est-à-dire le refus d'accepter l'idée que le monde soit inconsistant, donc la recherche du sens. Cette pensée de Paul Audi, donc de l'analyse du sentiment intérieur, elle est abordée à travers 5 entrées. Tout ça, c'est dans l'introduction. Alors, je vais assez vite. Alors, l'introduction est quand même assez consistante parce qu'elle est plus longue que le plus long des chapitres. Hein. Donc, c'est pour ça que je prends 2 minutes. Alors, 5 entrées. D'abord, la pensée elle-même. La pensée se saisit comme l'incontournable demande de sens. Ça, c'est l'essence de la pensée. Deuxièmement, l'esprit. L'esprit, c'est le souffle de la vie. Et c'est ce qui ouvre la porte d'une éthique minimale. L'éthique minimale, c'est celle de Nietzsche, page 42. Nietzsche qui dit « Deviens, ne cesse de devenir qui tu es, le maître et le formateur ou sculpteur de toi-même. » Troisième entrée, le monde. Le monde, c'est l'énigme de la visibilité. Quatrième entrée, le soi. Le soi, c'est la découverte du niveau de l'expérience, et cette expérience, c'est celle de l'absolu de l'existence. Et enfin, cinquième entrée, c'est la vie, l'aspect présent et intemporel de l'existence, le présent vivant, l'épreuve de soi comme donnée irréductible de l'existence. Voilà. Donc c'est dans ce cadre théorique très général que Audi aborde le sentiment intérieur à travers 7 chapitres, dont un chapitre qui est ce qu'il appelle une intermède éthique. Donc je vais aborder chacun de ces chapitres en procédant par découverte successive du sentiment intérieur. La première question qu'il pose est le lieu du vivre. Le sentiment intérieur, c'est le lieu de l'épreuve de soi, et cette épreuve de soi, on peut en dire 2 choses. D'abord, elle se vit sur un mode pathétique, c'est-à-dire avant toute réflexion, comme un fait absolu, et elle se vit comme une immanence charnelle et pulsatile. Deuxième chose, ce n'est pas un rapport au monde, alors là, évidemment, il y a toute une discussion avec Heidegger et la phénoménologie. Ce n'est pas un rapport au monde ni un être au monde médiatisé par la technique, c'est un sentiment qui nous plonge dans le réel, qui jaillit en tant que certitude absolue au-delà de toute évidence, et ce sentiment relève d'une affectivité transcendantale. Évidemment, quand on a dit tout ça, on va se heurter à qu'est-ce que le sentiment intérieur ? Et donc ça, c'est le deuxième chapitre dans lequel Paul Audi se confronte à la difficulté de saisir ce sentiment intérieur. Ce sentiment intérieur reste un profond mystère. C'est une évidence absolue dont on ne peut rien dire, comme l'ont remarqué, et alors là, il cite les auteurs classiques, Montaigne, Descartes, Wittgenstein, Pascal aussi. Pascal qui disait « On peut bien connaître l'existence d'une chose, mais sans en connaître sa nature. » Le véritable apport des auteurs à cette analyse du sentiment intérieur, c'est Rousseau. Rousseau qui explique que le moi n'est pas introuvable, la corporéité vivante du moi se découvre lors des rêveries du promeneur solitaire. Le je se révèle à soi dans la marche, dans la rêverie et dans la solitude, il se révèle comme intimité profonde en mouvement. Il se découvre à travers un positionnement du moi, c'est-à-dire du lieu où je suis. Il cite Rousseau, « Je suis tout entier là où je suis. » Autrement dit, c'est là la première chose qui découle de l'analyse de ce sentiment intérieur. L'être du moi est d'essence positionnelle. Et pour le préciser, le sentiment d'exister ne se révèle à soi comme rapport de passivité face au positionnement préalable de moi. Troisième niveau... C'est le moment où Paul Audi examine l'obstacle de la saisie du moi comme lié au corps et inséparable d'un mouvement d'auto-affection. qui fait que le moi se démultiplie à l'infini. À travers le pur mouvement de la vie, l'épreuve de soi devient ce qu'il appelle, entre guillemets, une archimobilité du vivre. Et donc c'est là où s'appuie sur Michel Henry. Paul Odie établit donc la troisième caractéristique du sentiment intérieur. Ce sentiment intérieur s'enveloppe d'une tonalité fondamentale, susceptible de variation. Il s'éprouve dans les différents moments de l'existence, à travers des niveaux sensibles, des différents plans affectifs, différentes couches émotionnelles. Et cette tonalité affective, il l'appelle le plan d'immanence et d'impression. Le plan d'immanence et d'impression. C'est ce qui permet de sentir notre vie avec toutes ces modulations rythmiques, à la fois dynamiques et pathétiques. Ce plan d'immanence et d'impression, il a deux caractéristiques. Premièrement, ce n'est pas un état stable. Il se révèle à travers deux modalités qui sont tantôt une modalité passive, tantôt une modalité active, ce qui fait que ce qui motive la volonté, l'effort, etc. Et deuxièmement, ce plan ne préexiste pas au moi, il se constitue à travers des éléments de la vie, voilà. Ce plan est l'effet d'un continuum du plan de la vie qui consiste à devenir celui qu'on est. Ayant abordé ce point-là, on passe au quatrième point, qui est peut-être le plus important. C'est que le sentiment intérieur, c'est la découverte du soi. C'est-à-dire que ce plan d'immanence renvoie à une instance plus profonde, originaire, en deçà du moi, à la source absolue de la subjectivité, qui est le sentiment du soi. Ce sentiment du soi, on peut en préciser cinq choses. D'abord, il se définit par son excédence, une sorte de pouvoir qui habite tout sentiment de soi, un pouvoir de l'absolu qui apparaît comme l'essence de la subjectivité humaine, excédence. Deuxièmement, ce sentiment de soi se donne dans une passivité radicale. Il s'impose à chaque être vivant qui ne peut jamais décider de ne l'éprouver ou de ne pas l'éprouver. Nul n'a la moindre prise sur le sentiment de soi. Troisième chose, le sentiment d'existence se donne comme un pur attachement à soi, attachement exclusif qui se présente comme amour de soi. Amour de soi, passion primitive, innée, antérieure à tout autre. Et se référant à Rousseau, ils le disent, c'est le plus puissant et le seul motif qui fait agir les hommes. Quatrième chose, l'amour de soi, la révélation du fait de vivre comme fait brut, indépassable, renvoie toujours le soi à lui-même. Et donc, il est condamné à buter sur soi. Cette butée sur soi est la structure ontologique du moi, qui apporte une nouvelle compréhension de la finitude humaine. Et puis, cinquième chose, cet amour de soi comporte deux conséquences ontologiques constitutives de cette finitude. D'une part, le sentiment intérieur est inséparable du désespoir, l'impossibilité de se fuir à soi-même, et deuxièmement, le sentiment intérieur est habité par la solitude. En citant Nietzsche, il dit « La solitude d'être constitue l'étoffe du sentiment intérieur où s'édifie l'être du soi. » Je passe l'intermède éthique et je passe directement à une autre approche du sentiment intérieur, une nouvelle réduction qui met en évidence la moindre excédence du soi. Tout à l'heure, on disait qu'il y avait une excédence. Maintenant, on affirme que cette excédence est moindre. Cette moindre excédence, c'est le désir de dépassement qui est inhérent au moi, mais qui, à chaque fois, se découvre dans une insurmontable absence de choix. L'épreuve de soi est essentiellement pathétique, réduite à sa dimension dispositionnelle. D'où il en résulte que le soi est contrarié, On rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Le soi est contrarié parce que le sentiment intérieur est ce qui, en nous, n'est pas tout à fait nous. Le soi découvre qu'il est vraiment ce qu'il est vraiment à travers un désespérant vouloir être un autre. Ce moindre soi est constitutif du sentiment intérieur, il se révèle inscrit dans l'échéance de l'impouvoir du moi, la butée sur soi-même. Bref, nulle chance d'être un autre, chacun n'est rien que soi, ni plus ni moins. Dans le dernier chapitre, Paul Audy évoque un dernier élément de l'analyse du sentiment intérieur. C'est le besoin du corps de sortir de sa sphère d'immanence pour se confronter à autre chose que lui-même. C'est-à-dire que pour exister, il faut qu'il se confronte à autre que soi. Donc, l'assignation ontologique du soi, comme tout entier corps de chair et rien d'autre, se transforme en recherche d'une épreuve de force. C'est pourquoi le sentiment intérieur fait couple avec la terre qui représente une contre-force et devient le seul obstacle du « je peux ». Là aussi, référence à Nietzsche. Nietzsche qui disait « Le corps complet, de la tête aux pieds, parle du sens de la terre. » Alors, ce lien à la terre remplit plusieurs fonctions. On en dénombre cinq. Premièrement, une fonction d'appui. C'est le premier lieu sur lequel le corps se tient. Une fonction de résistance. La terre résiste là où le corps insiste. Troisièmement, une fonction d'orientation du corps. Le sens de la terre, c'est le sens de la corporéité. Quatrièmement, une fonction d'accueil. La contrée, c'est le lieu d'habitation du corps. Et enfin, cinquième fonction, c'est de constituer un rival ontologique, le lieu de déploiement de puissance, le lieu de libération subjective et le lieu de potentialisation continue du « je peux ». C'est pourquoi, à travers le sentiment intérieur, se joue une obsession du corps charnel à vaincre à tout prix et à dominer. Le dernier aspect de la finitude humaine, c'est le corps charnel, source intarissable de besoins qui s'adressent à la nature et inséparable d'un besoin de destructivité. Pour conclure, on peut dire que le sentiment intérieur, en tant qu'auto-affection et être là, se donne comme épreuve de soi, se découvre comme lieu ajusté à soi, lieu d'enfermement à soi qu'on ne peut quitter ni dépasser, lieu d'une expérience transcendantale, d'une butée sur soi, qui exprime l'échéance de la corporéité, ce qui fait dire à Rousseau « je suis entier là où je suis ». Le sentiment intérieur est difficile à décrire. Il se présente comme un plan d'immanence et d'impression qui permet de circonscrire la finitude humaine du vivre, c'est-à-dire une épreuve d'empêchement et de révélation à soi à travers l'amour de soi, la solitude et le désespoir. Il n'y a pas d'issue pour sortir de soi, si ce n'est l'imaginaire ou le suicide. Au final, on a une pensée pessimiste qui exclut tout horizon transcendant et renonce même dans la conclusion à la reconnaissance d'autrui. Autrui, l'expérience d'autrui apparaît comme une expérience en première personne, c'est une expérience du semblable à travers une similitude fondamentale. Dans le sentiment intérieur, il n'y a aucune place pour autre que soi. Et pour finir, citant Kafka, Baudelaire et Victor Hugo, l'auteur énonce deux ultimes paradoxes tirés de Baudelaire. « Moi, c'est tous, tous, c'est moi. » Et deuxième citation, « Jamais je ne suis autant toi que lorsque je suis moi-même. »